Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu.
Emmanuel, Dieu parmi nous. Tu n'es pas resté loin pour nous sauver, tu es venu au milieu de nous. Emmanuel, nous te chantons ce matin. Emmanuel, nous te célébrons ce matin. Emmanuel, nous te désirons ce matin. Emmanuel, c'est toi que nous voulons par-dessus tout. Emmanuel, ne t'éloigne pas de nous. Emmanuel, tu sais, quelquefois nous sommes émotifs et nous voulons sentir que tu es à nos côtés. Emmanuel, parle à nos cœurs ce matin. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Et que cette parole soit comme un équipement qui nous aide à rencontrer défis et challenges qui nous attendent cette semaine et les jours qui viennent. Emmanuel, saisis-toi de mon être. Et aide-moi à communiquer ces vérités par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tout le monde. Lisez avec moi ce matin dans le livre de Néhémie. Nous lirons d'abord Néhémie chapitre 2, versets 9 et 10, et puis verset 19. Néhémie chapitre 2, versets 9 et 10, et puis verset 19. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Verset 10. Sanballat les Horonites et Tobija les serviteurs ammonites, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Verset 19, Sanballat les Horonites, Tobija les serviteurs ammonites et Geshem l'Arabe, trois nationalités différentes, mais apparemment ils sont réunis par une cause commune. En ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre l'ordre du roi? Encore Néhémie au chapitre 4. Et là, nous lirons du premier au quatrième verset, et puis les versets 7 et 8. Premier jusqu'au quatrième, et puis 7 à 8. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants ?» Il leur colle même un adjectif. Les laissera-t-on faire? Vont-ils sacrifier? Vont-ils achever? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de pierres, des poussières plutôt, et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui, il dit, qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre, et je les entends ricaner de rire. Le verset 4 nous parle de la réaction de Néhémie. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leur insulte sur leur tête et livrez-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Verset 7 à 8. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Il est étonnant de voir quand nous faisons du bien, des gens veulent coûte que cela n'avance pas. Ils furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait, que les brèches commençaient à se fermer. Le verset 8 dit, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Toujours Néhémie chapitre 6, versets 1 à 2, et puis verset 9. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat, encore les mêmes noms, habituez-vous, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis, ils sont tellement nombreux qu'on ne sait pas tous les citer nommément. Ils apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches. Alors, Sanballat et Geshem m'envoyèrent et dirent, viens, ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ono. Écoutez la fin, ils avaient médité de me faire du mal. Verset 9e. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-nous. Mais je termine avec le verset 15 et 16. Ah, j'aime beaucoup. La muraille fut achevée le 25e jour du mois de Loul en 52 jours. Les commentateurs disent que normalement ça aurait dû se faire en une centaine de jours. Mais il semble comme si l'adversité a provoqué la célérité. L'adversité a provoqué la vitesse en 52 jours. Et j'aime la fin de verset 16. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, parce que quand Dieu fait, ce n'est jamais caché. Toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Et j'aime la suite. Et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. J'aimerais parler ce matin sur le thème « Mes ennemis, ma bénédiction ». Mes ennemis, ma bénédiction. Quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 28, nous retrouvons une parole et une déclaration spéciale, faite par un homme à un moment particulier. Un homme qui venait de connaître un réajustement dans sa façon de voir, dans sa façon de juger, dans sa façon d'appréhender des choses. Il s'appelait Pierre. Il avait été élevé de telle sorte qu'il lui avait été dit, et à lui, à tous ceux de sa génération, qu'il y avait un comportement que les Juifs étaient censés avoir devant les gentils. Et puis voilà, il est révolutionné dans sa façon d'être et de faire. Il a vu une nappe qui descendait, et une voix qui lui dit, tu et mange. Il dit, mais je ne peux le faire. Et finalement, il va à contrario par rapport aux idées reçues. Et plus tard, quand les gens veulent lui poser des questions, ils veulent comprendre, ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a agi de la sorte, pourquoi il s'est comporté de la sorte, pourquoi il a agi différemment. Et lorsqu'il leur parle, il dit cette chose merveilleuse. Il dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais j'aime la suite. Mais Dieu m'a appris. Ce regard différent que j'ai ne vient pas de moi. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Mon comportement différent est dicté par un réajustement. J'ai regardé comme vous, j'ai jugé comme vous. Je prenais des positions comme vous, mais quelqu'un a changé ma manière de voir les choses. Dieu m'a appris à regarder. La version des semeurs dit, Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut pas considérer les choses. Notre jugement détermine toujours notre attitude. Notre jugement détermine toujours nos actions et nos réactions. Et j'aimerais dire ce matin, sur le chemin de la vie, nous rencontrerons l'adversité. Nous rencontrerons l'inimitié. Nous rencontrerons une certaine catégorie de gens appelés ennemis. Je n'aimerais pas donner une définition savante. Qu'est-ce donc un ennemi? Si je dois dire simplement, un ennemi, c'est quelqu'un qui nous déteste. C'est quelqu'un qui cherche à nous détruire. Les ennemis sont caractérisés par deux choses. Premièrement, ils sont caractérisés par des sentiments qu'ils ont vis-à-vis de nous. Ils ne nous aiment pas. Ils éprouvent de l'aversion vis-à-vis de nous. Ils ont un désamour à notre égard. Et cela même dans les taux les plus élevés va jusqu'à la haine. Un sentiment. Mais deuxièmement, au-delà des sentiments, les ennemis posent des actions. À cause de ce qu'ils éprouvent contre nous, ils travaillent pour notre malheur. Soit ouvertement, soit de manière cachée. Ils mettent leur intelligence, leurs moyens, leur force pour que nous ne soyons plus. Vous serez étonné de voir combien de gens réfléchissent, combien de gens mettent les moyens, combien de gens se mettent en route enfin que vous ne soyez pas.
Quelqu'un a dit les ennemis les plus faciles à combattre, ce sont des ennemis connus. Et les plus difficiles à combattre, ce sont des ennemis inconnus. Ceux qui se font passer pour vos amis et qui ne le sont pas. Mais ce que j'aime, même des ennemis inconnus, notre Dieu les connaît. À cause de ce qu'ils éprouvent vis-à-vis de nous, ces gens que nous appelons des ennemis, ils entrent en hostilité contre nous. Ils nous font la guerre. Ils deviennent nos contradicteurs. Ils s'opposent à nous. Ils cherchent à nous nuire. Ils mettent leur temps, leur intelligence et, comme je le dis, même leurs moyens au service de notre nuisance. Vous serez étonnés. Là au travail, là au quartier, là en famille. Des gens qui cherchent à vous nuire alors que vous vous dormez paisiblement à 3 heures du matin au-dessus d'un arbre à Goma. Une réunion se tient à Bongate. Bananae babalate. Quand tu regardes Nasalaye Nini, tu ne vois pas la raison. Il vient te féliciter le jour de ta nomination, mais dans son cœur, elle vient assister au mariage de ta fille, elle est contente. Ça s'est passé à un bel endroit, très belle cérémonie. Dans Psaume 41, verset 6, le psalmiste dit: mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Vous serez étonné d'entendre ce que vos ennemis disent. Des fois, il est bon de ne pas entendre cela. Quand va-t-il mourir? Quand son nom va-t-il périr et disparaître? Nos ennemis font de notre malheur et de notre infortune leur sujet de bonheur. Dans Psaume 65, 69 plutôt, verset 5e, les psalmistes disent: ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Il dit: ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre. Il arrive des fois, vous vous rendez compte que vous ne combattez pas dans la même catégorie comme si c'était en boxe avec vos ennemis. Ils ont plus d'atouts, plus de moyens. Est-ce que je vais résister? Est-ce que je serai capable? Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre. Et le psalmiste ajoute: ceux qui sont à tort mes ennemis. Il dit: sans que je n'explique pourquoi, ils veulent ma nuisance. Dans Psaume 109, versets 3 et 4, David, qui a connu l'adversité et l'inimitié, dira: ils m'environt des discours haineux. Et puis il ajoute: ils me font la guerre sans cause. Et puis il ajoute, il dit: tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Moi, je les aime. J'arrive pas à expliquer cette attitude qu'ils ont vis-à-vis de moi. Dans Lamentation de Jérémie, les prophètes déclarent: ils m'ont donné la chasse comme un oiseau, ceux qui sont à tort mes ennemis. L'inimitié a souvent deux bases: le présent, mais aussi le futur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des fois, on n'aime pas quelqu'un à cause de ce qu'il est et de ce qu'il a, et que l'on cherche à faire disparaître à cause du présent. Mais l'inimitié a aussi quelquefois une deuxième base, le futur. Non pas ce que vous avez, mais ce que vous pouvez avoir. Non pas ce que vous êtes, mais ce que vous pouvez devenir. Et il y a des gens comme ça qui ont cette capacité de voir ce que vous pouvez avoir et ce que vous pouvez devenir. Et parce qu'ils ne veulent pas que vous alliez jusque là, ils cherchent à vous combattre. Mais j'aime ce que Dieu a dit à son prophète: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La grande question que j'aimerais que nous puissions nous poser, vous et moi, en ces jours, c'est: comment gérer l'adversité? Comment gérer l'inimitié? Comment se comporter devant cette catégorie de personnes? Les ennemis, nous les avons à l'école, au quartier, à l'université, dans cette équipe de football, au travail, là au coin où il y a plusieurs ligablos, là où vous vendez les beignets. Ils n'acclament pas toujours quand ils voient devant vous il y a des fils pour acheter des beignets. Et ailleurs, il n'y a personne. On se demande qu'est-ce qu'il a de spécial. Et vous entendrez comment on commencera à dire Bouke banami katewana. Bala barona maïa. Bouke banama kamunde lewana. Asomara bibembe ba bébé na mama yemo. Vous serez étonné de ce que les gens disent derrière votre dos. S'il est vrai que les ennemis font mal, et même des fois très mal, en lisant, en étudiant la parole de Dieu, il arrive des fois que les ennemis sont nécessaires, pour ne pas dire importants. Je fais une prière, Seigneur, si quelqu'un pour aller plus loin, pour faire sortir le meilleur de lui-même a besoin de l'adversité, s'il te plaît, Seigneur, suscite-la. Suscite une adversité comme jamais il n'a souhaité. Je savais qu'on ne dirait pas Amen, moi j'ai dit Amen. Amen. Je suis étonné en lisant les livres des Juges au chapitre 3, versets 1 à 2. Alors qu'Israël entre dans la terre promise, la Bible dit une chose bizarre. Écoutez ce que la Bible dit. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres des Canaan, écoutez ce que la Bible dit. Dieu voulait seulement que les générations d'Israël apprennent et connaissent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. Il écarte plusieurs nations. Lui-même dit, ceux-là je les garderai pour les exercices de mes enfants. Il y a des adversaires, vous prierez, ils ne partiront jamais. Ils vous aideront à avoir des muscles spirituels. Dieu lui-même, il dit, je veux tout enlever. Il me dit, bah oyo, batikala. Bakembi, ça va remonter. J'aime quand quelquefois l'adversité vous invite dans la présence de Dieu. Vous savez, il arrive des fois, Dieu est nostalgique. Il dit, Asambela Kala. Il dit, la meilleure manière de l'inviter dans la prière, demande d'explication. Et vous verrez celui qui disait qu'il est toujours fatigué. À 23h, son épouse est étonnée. Bakoko kangaïté. Bakoko kangaïté. Nazan ensemble. Et Dieu aussi les regarde. Il dit, c'est ce que je cherchais. Des fois, il n'y a pas mieux que les mauvaises dispositions de la belle famille. Olibala on a tout lingé en beauté pour inviter quelqu'un à mangengengé. Dans 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 9, l'apôtre Paul dit quelque chose de merveilleux. Il dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Mais il ajoute aussi, et les adversaires sont nombreux. Combien il est étrange de voir une porte ouverte par Dieu, mais en même temps, l'adversité. D'un accès facile, porte ouverte par Dieu, mais adversité à côté. C'est pour cela, en ce jour, j'aimerais parler des ennemis qui peuvent être des bénédictions. Si le terme bénédiction, dans son sens premier et étymologique, veut dire du bien, en souhaitant que ce bien arrive, appeler le bien en les déclarant, le terme bénédiction a un deuxième sens biblique plus profond. Le terme bénédiction veut dire équipé pour la réussite. Bénédiction veut dire aussi donner un équipement ou des forces en vue d'accomplir des choses satisfaisantes. Bénédiction veut aussi dire revêtir pour la réussite. C'est pourquoi j'aimerais dire, s'il est vrai que nos ennemis ne disent pas toujours du bien de nous, sans eux, nous ne ferons pas certaines choses. Sans eux, nous n'accomplirons pas certaines choses. Sans eux, nous serons des moyens, des médiocres. Sans eux, nous n'arriverons pas à un seuil d'excellence. C'est pour cela que nos ennemis, des fois, nous équipent pour l'excellence. Je me souviens d'un ami avec lequel on a étudié en internat au Bas-Congo. Quand je suis né, à cause de ma tribu, je ne l'ai pas cité. Je parlais comme plusieurs de ma tribu. Chez moi, ce n'est pas le « on », c'est le « or ». Vous avez entendu ceux de ma tribu dire « okopra ». Je suis un de ma tribu qui disait la blésique voulait blacaniser. Et chaque fois qu'on me donne la possibilité de réciter quelque chose, de faire une élocution, il s'est moqué de moi, il pouffait de rire terriblement. Il aimait souvent quand il n'y avait pas un prof, il m'imitait. Il me disait, comment tu n'arrives pas à dire abandonner? Tu dis abandonner. Les M, la vient d'où? J'ai entendu mon père s'exclamer, non pas comment, mais comment? Il s'est moqué tellement de moi, il m'a méprisé. Il m'a poussé en 76 à prendre des cours spéciaux d'élocution. À cause de lui, je suis allé apprendre la phonétique. Amen. Combien de fois ce prêtre ne m'a-t-il pas appris à dire peu, petit, on ne dit pas petit, peu, peu. Et j'ai répété des milliers de fois. Amen. Je l'ai revu la dernière fois en 2001. Il est venu suivre les cultes à la borne, puis il m'a dit, mais français n'a eu bon gars. Je voulais lui dire, c'est toi qui m'as aidé. Mes ennemis, ma bénédiction. Sans ses moqueries, sans son mépris, sans son challenge. Certaines choses seraient encore là. Seigneur, donne-moi encore quelqu'un. Quelqu'un a dit cette belle phrase que le vrai compliment vient de nos ennemis. Un autre a dit, vos amis avalent vos fautes, mais vos ennemis vous les resserrent mais avec des ingrédients. Un autre a dit, si ami est quelquefois un mot vide de sens, ennemi ne l'est jamais. Un penseur chrétien a dit de leurs ennemis, les sages apprennent bien plus de choses que de leurs amis. Vos amis, tellement ils vous aiment, ils ne verront pas vos défauts. Mais vos ennemis, tellement ils vous haïssent, ils verront même les défauts que les autres ne voient pas. Je me souviens un jour, j'ai fini de prêcher. J'ai entendu quelqu'un dire, j'aime Roland Dallo, il prêche bien, mais deux défauts. Au cours de la prédication d'aujourd'hui, il a dit, eh bien, 42 fois. Et puis il a tenu les nez 50 fois. Je me suis envoyé des sorties, je suis monté là, j'ai dit allez, donnez-moi la cassette VHS. Et je suis allé, je commençais à suivre, moi-même je comptais, eh bien une fois, eh bien deux. Et c'est vrai, il y en avait autant qu'il avait dit. Et je vérifiais combien de fois je fais ça. Et le dimanche prochain, quand je me suis mis à prêcher, quand eh bien voulait monter, j'ai dit kebab. L'éthique qui a mené ma main vers les nez, je dis, ah, keba! Mes ennemis, ma bénédiction. Des fois, il faut quelqu'un qui méprise ta cuisine pour que tu ailles apprendre. Des fois, il faut quelqu'un pour se moquer de toi, combien tu ne sais pas tenir ta maison, tes enfants, pour que tu fasses des efforts. Seigneur, bénis-moi, donne-moi suffisamment qui m'amène là où je ne peux aller. Quelqu'un a dit, les amis peuvent trahir, les ennemis ne trahissent jamais. Ils sont constants et fidèles. Et les livres de Néhémie nous montrent l'inimitié, l'adversité. Néhémie a quitté l'endroit où il était. Il vient pour faire des bonnes choses, mais subitement il découvre que quand lui veut faire des bonnes choses, il y a des gens qui lui en veulent. Des gens qui veulent un statu quo. Des gens qui ne veulent pas que les choses changent. Et ces gens, non seulement qui se liguent, mais ces gens mettent leur intelligence et leurs moyens ensemble. Sanballat, Tobija, ils se disent non, non, non. Mais le livre de Néhémie nous apprend trois choses que nos ennemis nous apportent. Premièrement, nos ennemis nous aident à connaître notre Dieu comme jamais avant. Mais aussi, nos ennemis sont les meilleurs agents de publicité de la force de notre Dieu. Il n'y a pas que mieux, il n'y a pas mieux que vos ennemis qui connaissent la force de votre Dieu. Pourquoi? Parce que des fois, ils mettent une quantité d'adversité, de haine, des barrières, des pesanteurs pour que vous n'arriviez pas. Mais quand malgré cela, ils voient que vous arrivez, ils connaissent votre Dieu plus que vous. Des fois, nous ne connaissons pas la force de notre Dieu, nos ennemis les connaissent mieux. Des fois, quand vos enfants se marient, vous ne voyez rien de spécial. Ceux qui ont travaillé la nuit pour que cela n'arrive pas, ils se demandent comment a-t-elle pu se marier. Quand on vous nomme, vous ne connaissez pas les dessus des tables, vous ne connaissez pas toutes ces réunions secrètes et vous avez difficile à apprécier. À la fin de l'apartheid, lorsqu'il y avait la commission réconciliation et vérité, un homme blanc est passé, un africaner, il dit: je ne croyais pas en Dieu, mais quand je vois cet ex-prisonnier devenir président, je dis, soit il y a un Dieu, soit il y a une force invisible qui protège les gens. Et il a relaté deux faits. Il dit, deux fois nous sommes retrouvés en réunion, on se disait, quelle méthode utiliser pour détruire ces messieurs dans sa prison. Devant nous, à l'éplan, on plaçait des ampoules qui allaient dégager une sorte de vapeur, et quand il va respirer, il dit, réunion de 3 heures, à la fin ça s'est terminé dans la bagarre, sans qu'on arrive à une conclusion. Il dit, une deuxième fois, les prisonniers devaient être dégagés d'un endroit pour aller à un autre se présenter, et puis on a envoyé des gens en embuscade pour provoquer un accident. On pensera à un accident naturel, un véhicule qui a perdu son contrôle. Mais il dit, les gens ont lu la carte à l'envers. Ils sont allés vers une autre direction. Des fois, il n'y a pas mieux que vos ennemis pour connaître le Dieu qui vous garde, le Dieu qui vous protège. J'ai un ami, un aîné, qui est au Bas-Congo. Son fils, son premier garçon, il avait 4 filles, a plus d'une fois échappé à des accidents. On a failli les cogner, on a failli les tuer. Un beau jour, il s'est mis à prier. Il dit, Dieu lui a montré clairement, son petit garçon Jonathan qui est allé à l'école, il a vu une réunion, le diable a dit, donnez-lui 150 démons qui le poursuivent. Il dit, dans les rêves, il disait, mon amour, que beau, ma démon est bel et beau. Il dit, le lendemain, quand il s'est réveillé, il a dit, Jonathan n'ira pas à l'école. Dieu lui a dit, je t'ai montré, non pas pour que tu l'empêches d'aller à l'école, simplement pour te montrer ce que j'ai fait sans que toi tu voies. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les délivre de tout danger. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux, nous faire voir des choses qui se passent dans l'invisible, nous louerons Dieu, nous bénirons Dieu. J'ai relaté cette histoire il y a quelques années ici, l'année passée quand Philadelphie a commencé. Je me souviens un dimanche, je conduisais les cultes d'adoration et de louange à la banque, et j'avais toujours une jeune fille, 16-17 ans, qui venait toujours me voir, elle est très très gentille, très très gentille. Et je la vois ce dimanche-là, elle vient vers moi, j'étais en train de vouloir m'avancer pour aller vers les kiosques, je la voyais venir laver des biscuits. À cette époque, j'avais un très gros faible pour les biscuits, j'ai dit j'avais. Et puis à peine elle est arrivée à 10 mètres, 12 mètres de moi, j'ai vu quelqu'un m'est happé. Roland, je dois te parler. Et on s'est assis, on a parlé plus d'une heure. J'ai vu la petite s'est fâchée, puis elle est partie. Le lendemain matin, à 9h, revenu à mon bureau gonflé comme un beignet. Elle m'a dit, « Roland, prie pour moi. J'ai des filaires. » Sans révélation, je me suis mise à prier pour elle. « Seigneur, guéris-la. Seigneur. » Et le mercredi de la même semaine, il y avait séminaire à l'église. C'était le feu pasteur Lukusa qui apportait le message. Il avait parlé de la sorcellerie. À la fin, il a lancé un appel. Il dit, je lancerai un appel à ciel ouvert, que les sorciers s'avancent. Qui je vois première personne sortir? La fille, Betty. Je l'ai vu passer. Je me suis avancé. J'ai dit, Betty, balobi bandoki, abi. Elle m'a dit, je comprends. Je pensais qu'elle n'avait pas compris. Betty, bandoki, abi. Je comprends. J'étais troublé. Et quand la réunion a fini, je l'ai appelé, je dis, Betty, explique-moi. Elle m'a dit simplement, ya Roland, Nzamba lingakayo. Kangamana Nzambe. Elle m'a dit, tu vois, dimanche quand je venais là, on avait une réunion la nuit. On m'avait envoyé avec ses biscuits travailler. On m'avait dit, donne-lui ces biscuits qu'il mange. Si simplement il mange, il commencera à te poursuivre comme une biche soupire après des courants. Et il y aura un scandale, il sera mis de côté. Et je ne sais pas combien cette personne est venue me happer. Une heure. Elle me dira, tu m'as vu gonfler le lendemain, on m'a tabassé terriblement lors de cette réunion. Et moi, sans révélation, j'ai prié pour des fidèles. Seigneur Jésus! Elle ne s'est pas arrêtée, elle m'a dit, tu sais, deux fois nous sommes venus en réunion, nous sommes venus à plus de 150, à l'époque nous habitions dans la zone. Nous sommes venus la nuit, nous avons trouvé devant chez toi, il y avait un grand fleuve, mais qui bouillonnait. Ils n'avons pas pu avancer. Il dit, il y a deux semaines encore, nous sommes venus et devant chez toi, nous avons vu un géant avec une épée flamboyante. Est-ce qu'un ils connaissent mieux notre Dieu que nous. Et quand l'adversité a été forte, ils ont essayé de détruire le travail des Néhémie, ils ont essayé de le combattre. Mais finalement, brique après brique, le travail a été fait, brique après brique. Et puis subitement, ils ont placé la dernière brique. En 52 jours, ce qui devait se faire en 100 jours, les ennemis nous ont rendus capables de travailler d'arrache-pied, d'aller au-delà. Ils nous ont donné une énergie que naturellement nous n'avions pas. Et nous-mêmes nous sommes étonnés. Au lieu de 100, c'est 52. Mais j'aime la suite. Lorsque tous nos ennemis la prirent, parce qu'ils apprendront toujours. La Bible dit, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Ils savent, ça c'est Dieu. Et j'aime la suite. Elles éprouvèrent une grande humiliation. J'aime la fin. Ils reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Ça, c'est Dieu. Le Seigneur accomplit des choses dans ma vie qui seront signées. Ça, c'est Dieu. Il y aura la signature de Dieu. Même les contradicteurs diront, non, s'il est arrivé jusque-là, c'est Dieu. S'il reste encore à ses postes, c'est Dieu. S'il est maintenu dans ses cabinets, c'est Dieu. S'il est encore dans ses bureaux, c'est Dieu. Nos ennemis nous aident à connaître notre Dieu. Il y a des choses que Dieu fait avec vous, pour vous, au travers de vous et même des fois par vous, qui n'ont qu'un seul et unique objectif, amener les autres à savoir que vous êtes avec lui. Montrer aux autres que vous êtes différents. Dans Apocalypse 3, versets 8 à 9, il est dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand il dit que personne ne peut fermer, ce n'est pas qu'ils ne vont pas essayer. Ils essayeront, mais il n'y aura aucune adversité victorieuse. Et j'aime la suite. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Mais écoutez la fin. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Et j'aime la fin. Et reconnaître que j'étais aimé. Ils verront des choses que eux-mêmes diront, celui-là, Dieu l'aime. Il est aimé de Dieu. L'adversité. l'adversité. Exode 14, verset 30 à 31, nous parle de la réaction d'Israël lorsqu'ils ont été témoins de la toute-puissance de Dieu. Ils ont traversé la mer Rouge et ils ont vu Dieu accomplir des choses. Ils ont vu les eaux de la mer Rouge s'effondrer et ils sont passés à pied sec. Et les ennemis ont été engloutis. La Bible dit, en ces jours-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et j'aime la suite. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Des fois, il n'y a pas mieux que l'adversité pour que nous ayons la révélation de notre Dieu comme jamais avant. Il y a des choses qui sont théoriques. On dit Jéhovah Jireh, on dit Shama, on dit celui qui protège. C'est écrit noir sur blanc. Des fois, il faut l'adversité pour que nous voyions cela. Alors, ce n'est plus écrit, c'est maintenant un vécu. J'ai connu un homme de Dieu. On avait levé l'option de l'excommunier d'une communauté. Il y a eu une réunion de 4 heures. Il m'a dit, si tu fais la sommation 4 fois 60... Tu peux me dire combien de minutes il y a, combien? 200 combien? Il me dit, j'aimerais te dire une vérité. Jusqu'à la 232e minute, tu étais excommunié. Il y avait comme une unanimité jusqu'à ce que quelqu'un s'élève. Et l'unanimité a été rompue. Il a juste donné 2 arguments. Et tout a changé. Il m'a dit une phrase. Vous savez, j'aime beaucoup les quinois. Il m'a dit 6 mes balouka. 4 mes balouka. Et voilà. C'est pour ça que je disais les quinois, je les amènerai au ciel. Ah, j'entends, tu poses la question à ton voisin. 6 mes balouka. 4 mes balouka. Et puis. Il dit, c'est à la 234e minute que tout a basculé. Il dit, quand on est sorti, quelqu'un est venu, ça lui dit, va lui dire, il a un Dieu. Dans Psaume 126, versets 1 à 3, la Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Mais j'aime la suite. Il a dit, premièrement, alors notre bouche était remplie des cris de joie et notre langue des chants d'allégresse. Mais écoutez ce qu'il dit deuxièmement. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Vous-même, vous serez conscients, mais les autres aussi seront conscients. Deuxième chose que l'inimitié fait, l'inimitié produit. Nos ennemis et leur adversité nous rappellent notre besoin d'un appui. Quelquefois nous voulons évoluer en soliste, quelquefois nous croyons faire sans Dieu. Et nos ennemis par leur adversité nous rappellent que nous avons besoin d'un appui. J'aime la prière de Néhémie, dans Néhémie chapitre 4, verset 4, après que l'on se soit moqué de lui. Le verset 3 dit, Tobija l'ammonite était à côté de lui, dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille. Ennemi a conscience qu'il n'a pas de force. Écoutez sa réaction. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Néhémie chapitre 4, verset 9, qui parle de la prière de Néhémie. Après qu'il y ait eu toute cette adversité, la Bible dit au verset 8, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du tort. Écoutez ce que le verset 9 dit. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. L'une des plus belles prières du Nouveau Testament, surtout à cause de ses conséquences, c'est une prière qui a des conséquences écologiques. Ils ont prié, la Bible a dit, après les lieux où ils étaient rassemblés, trembla. Quelle expérience, j'aimerais vivre cela. Mais cette prière a été causée par les fouets. Ils ont reçu les fouets de la persécution. Et quand ils se sont retrouvés à prier, écoutez comment ils commencent leur prière. Ô Seigneur, vois leurs menaces. Des fois, il n'y a pas mieux que les menaces pour nous faire mieux prier. Et la Bible dit, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Dans 2 Chroniques chapitre 20, versets 3 à 4, il a fallu la présence des trois nations pour que la Bible dise, dans sa frayeur, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. L'adversité nous pousse à des réflexes qu'on n'aurait pas eu en temps anormal. Les botanistes disent, plus un arbre est battu par les vents, plus il pousse ses racines profondément. Des fois, il n'y a pas mieux que l'adversité pour nous pousser à plus de profondeur, plus de recherche de Dieu, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi. Troisièmement, nos ennemis nous poussent à accoucher le meilleur qui est caché en nous. Il y a des choses que j'appelle les meilleures qui sont enfouies en nous et qui ne sortiront jamais sans les coups de l'adversité. L'histoire dit que la muraille bâtie, ou mieux rebâtie dans Néhémie 6, était faite de matériaux résistants et durables. Pourquoi? Parce que les ennemis se moquaient et disaient, s'ils bâtissent un simple renard qui va passer, va faire que tout tombe. Et les commentateurs disent, à cause de ces remarques, à cause de ces mépris, ils ont cherché les matériaux les plus solides. De telle sorte que plus tard, ces murailles ont tenu. Des fois, il n'y a pas mieux que la concurrence pour qu'une compagnie s'améliore. Des fois, même sur le plan politique, il n'y a pas mieux qu'une petite opposition. Regardez sous d'autres cieux. Quand un premier ministre vient tenir un discours, il fait ceci, et puis les opposants passent, l'opposition, ils vous dissèquent. J'aime beaucoup suivre les débats parlementaires. Vous trouverez des gens hyper intelligents qui vous obligent à revoir votre copie. Je revois un ministre qui vient, qui tient son discours. L'un monte et dit, je vais te prouver par quatre arguments que tout ce que tu as dit est faux et je te présenterai six autres contre-arguments. Ouah! Et il commence, pam, 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 pam. Et tu restes là, tu dis, mais... Et ça te pousse à aller revoir tes syllabus. Ça te pousse à mieux préparer ton speech. Seigneur, donne-nous qu'il y ait une confrontation afin que nous allions de l'avant. Donne-nous d'accepter les challenges. Donne-nous d'accepter la contradiction. Laisse-les bâtir. Un renard se lancera et renversera leur muraille. Néhémie chapitre 4, verset 13. Et puis verset 16 à 18. La Bible nous montre les stratégies que Néhémie a placées. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Sans les menaces de l'ennemi, il n'y aurait pas la réflexion. Écoutez les versets 16 à 18. Depuis ces jours, la moitié de mes serviteurs travaillaient. L'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Et les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Verset 17, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Il n'y a pas mieux que l'adversité pour vous faire réfléchir. Désormais, ce n'est plus seulement l'instrument de travail. Il y a d'un côté l'instrument de travail et de l'autre côté l'arme, parce qu'on sait que tout peut arriver. Verset 18, chacun d'eux en travaillant avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait des trompettes s'éteignait près de moi. Stratégie imposée par l'adversité. Stratégie imposée par les menaces de l'ennemi. En général, l'adversité, plus elle est forte, plus elle nous rend inventifs et créatifs. L'adversité nous pousse à être exigeants envers nous-mêmes, à faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on doit faire, l'adversité. Elle fait sortir les meilleurs que nous cachons. Ce matin, avant de clore et que nous puissions prier un petit moment, j'aimerais dire trois dernières choses concernant l'adversité et l'inimitié. Premièrement, nous ne devons pas la trouver étrange. Dans Pierre, chapitre 4, verset 12, il est écrit, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. » Quelqu'un dit, « Si vous voulez savoir jusqu'où vous êtes dangereux pour l'ennemi, voyez les moyens qu'il met en marche pour vous détruire. » Ne trouvez pas étrange. D'autres versions disent, « Ne trouvez pas anormal. » Si vous voulez connaître votre importance, voyez les degrés d'adversité. Voyez les moyens que l'on met. Voyez combien on veut par la désinformation vous détruire. Commencez à vous dire, c'est sûr, je suis quelqu'un de spécial. Deuxième et avant-dernière chose, devant l'adversité, et surtout l'adversité la plus forte, confions-nous en Dieu, qui est le capable de nous protéger. Il s'est transformé l'adversité en autre chose. Dans Psaume 110, au premier verset, il dit, assis-toi, il dit à son serviteur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse des temps de tes ennemis ton marchepied. Il sait mieux gérer l'adversité que nous. Le psalmiste dira quelque part, je cherche mes ennemis et je ne les vois plus. En un instant, les méchants disparaissent. Dieu sait gérer. Il sait mieux gérer l'adversité. Je ne laisserai jamais l'adversité déposer l'amertume dans mon cœur. Je ne laisserai jamais l'adversité amener la rancœur. J'ai tant d'autres sentiments à loger dans mon cœur que tous ces sentiments négatifs. Le psalmiste dit, je m'écris, loué soit mon Dieu, et je suis délivré de tous mes ennemis. Des fois, devant l'adversité, nous n'avons que l'arme de faible, la prière. Dans Psaume 109, au verset 4, le psalmiste dit, « Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais j'aime la fin. Mais moi, j'ai recours à la prière. » Des fois, il ne nous reste que la prière. Des fois, nous n'avons que la prière. Mais je termine en disant une troisième et dernière chose. Nous devons avoir conscience qu'aucune adversité n'est éternelle et permanente devant un vrai enfant de Dieu. Aucune. Dieu, des fois, ne nous montre pas comment il va nous aider à élaguer cela. Il ne nous montre pas comment il va enlever cela. Il s'en occupe. Et quand il s'en occupe, quelque chose se passe. Il place sur notre bouche ce que la Bible appelle un cantique nouveau. J'aimerais en terminant lire le psaume 18. Je vais lire assez longuement. Psaume 18, nous lirons du 1er au 7e, du 14e au 18e, 1 à 7, 14 à 18, 41, et puis 49 à 50. 1 à 7, 14 à 18, 41, et puis 49 à 50. Écoutez comment le psaume commence. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, dit David qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques, et j'aime la suite. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis. Tous ses ennemis. Quelqu'un va vivre cela dans les jours qui viennent. Et de la main de Saül. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Quand Dieu vous délivre de l'adversité, vous reconnaissez qu'il est votre force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Il y a des paroles qui n'attendent que de voir Dieu agir pour sortir. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré des ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Mais j'aime la suite. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Le verset 14 à 18. L'Éternel tonna dans les cieux. Les très hauts firent retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Les lits des eaux apparurent. Les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par les bruits du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant. Et j'aime ce qu'il dit, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Verset 41. Tu fais tourner les dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Verset 49 à 50. Qui me délivre de mes ennemis? Tu m'élèves au-dessus de tous mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Ô Éternel, je chanterai à la gloire de ton nom. Combien c'est glorieux! Combien c'est glorieux comme Néhémie de se lever, de commencer à faire un travail, de voir l'adversité. Et des fois, se demander est-ce que je veux vaincre, d'entendre des choses. Ils ont dit cela. Combien c'est glorieux un jour de placer la dernière brique et de se dire la muraille est finie. Quand avec Dieu on a connu l'adversité, mais que finalement on arrive au résultat final, il n'y a que la louange. Il n'y a que la louange. Il n'y a que la reconnaissance. J'aimerais nous inviter ce matin à nous lever. Je ne sais pas quelle adversité tu connais. Au travail, en famille. Et je chante, je te loue, malgré le temps difficile. Je lève mes mains,
je lève mes mains pour t'honorer. Ta parole est vraie et je chante. Je te loue
malgré le temps difficile,
malgré le temps difficile,
dans la peine et la souffrance,
dans la peine et la souffrance, et je chante.
Je lève mes mains,
je lève mes mains pour t'honorer, car ta parole est vraie et je chante.
Chante-le encore et je chante.
Je te loue
malgré les temps difficiles,
malgré les temps difficiles,
dans la peine et la souffrance,
dans la peine et la souffrance, et je chante.
Je lève mes mains.
Je lève mes mains pour t'honorer. Car ta parole est vraie. Et je
chante-le une dernière fois et je chante.
Je te loue.
Malgré le temps difficile.
Malgré le temps difficile. Dans la peine et la souffrance.
L'Esprit de Dieu me met à cœur que l'on fasse trois choses ce matin. D'abord, simplement, élève tes mains. Commence à te rappeler quelques adversités que tu as connues, quelques combats que tu as connus dans lesquels Dieu t'a fait sortir victorieux. Des fois, il n'y a pas mieux que les passés pour nous rappeler la force de notre Dieu. Rappelle-lui des événements. Tu étais dos contre le mur. Et il a fait. Et je te dis ce matin, le Dieu du passé, c'est aussi le Dieu du futur. Des fois, tu sembles être loin, à des milliers de kilomètres. Je n'ai pas perdu ma force. Je dois les confesser. Il y a quelqu'un ce matin, tu es dans les vrais, mais on te diabolise. Quelqu'un a les médias, quelqu'un a la capacité de dire des choses sans être contredit. Mais tu souffres de moyens qu'il a dont tu ne disposes pas toujours. Ton Dieu me dit de te dire ce matin, déclare comme Job, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Présente cette adversité. Et troisièmement, j'aimerais que vous répétiez, vous déclariez ces choses après moi. Dites après moi avec foi et conviction. Je fais partie de l'équipe du vainqueur. Répétez-le encore, je fais partie de l'équipe du vainqueur. Aucune adversité ne va triompher. Car mon Dieu est mon capitaine. De mes propres yeux, je contemplerai l'œuvre de ses mains. De leurs propres yeux, mes ennemis verront la grandeur de mon Dieu. Dites-le encore. Je terminerai le muraille qui m'a demandé de commencer. Aucun Tobija, aucun Sanbala, aucun Geshem, malgré ses moyens, ne m'arrêtera. Les Sanbala de ma vie, les Tobija de ma vie, auront la révélation de mon Dieu. Dieu me dit de dire à quelqu'un en lingala, Obanga Kanini. Obanga Kanini. Obanga Kanini. Il y a une jeune fille, les parents sont décédés, on vous a tout arraché, on vous a jeté dehors. On a pris les biens de votre père. Dieu m'a dit, dans quelques années, je renverserai les choses. Je te placerai sur une montagne élevée. Ils reviendront vers toi et vers vous. Car je leur montrerai que je t'ai aimé. Levons nos mains et déclarons nul et sans effet toute adversité contre le Congo, toute adversité contre ma nation, contre notre pays, contre notre économie, contre son devenir. Aucun complot contre la RDC ne réussira. Aucun n'a réussi et aucun ne réussira. Aucun n'a triomphé, aucun ne triomphera.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.